Tranche de Livre, votre émission littéraire. En partenariat avec la librairie Les Volcans,
80 boulevard François Mitterrand à Clermont-Ferrand et sur www.librairielesvolcans.com.
Tranche de Livre, votre rendez-vous hebdomadaire sur Radio Arverne 100.2. Une émission qui précède la notoriété mais ne la suit pas. Et aujourd'hui, nous allons rester ensemble pendant une demi-heure, comme il est d'usage de le faire, avec une écrivaine, on va faire de l'inclusif. Il s'agit de Florence Herlmann, avec L'appartement du dessous, un roman édité par Albin Michel. Alors là, on se retrouve dans un immeuble parisien du Marais, où une femme âgée, Hectorine, vit depuis des lustres. Et elle voit d'un jour à l'autre l'appartement du dessous investi par une nouvelle voisine. Cette nouvelle voisine s'appelle Sarah. Et pour lui souhaiter la bienvenue, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres. Elle va carrément lâcher une rafale. Hein, et elle va retracer une traversée du XXe siècle incroyable entre le Cabourg de la Recherche. La Recherche, on évoquera ça avec Florence après la coupure musicale, le Berlin du Troisième Reich et le Paris d'après-guerre. Mais alors, pourquoi toutes ces lettres? Ben, un jour, vous saurez, promet la centenaire, parce qu'il faut savoir que Hectorine est plus que centenaire, à Sarah qui va se prendre au jeu, très intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce roman parce qu'il redonne une vie et une fraîcheur au genre épistolaire, pour ceux qui connaissent le terme. C'est l'écriture des lettres, et quand je dis des lettres, ce ne sont pas des SMS. Et Florence Herlmann va véritablement insuffler un style, c'est un hymne à la vie, à la parole, et ce qui en fait va nous amener, je dirais, à la relation transgénérationnelle qui tend de nos jours à se perdre. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette promenade dans la rue de Bretagne, la rue des Archives, le quartier du Marais, un quartier historique de Paris que vous connaissez tous et toutes. Et pour ceux qui voudraient le découvrir, n'hésitez pas.
Tranche de Livre, l'émission littérature de Radio Arverne.
En partenariat avec la librairie Les Volcans.
Bonjour Florence Herlmann, merci d'avoir accepté notre invitation dans l'émission Tranche de Livre pour évoquer ce très beau roman, L'appartement du dessous, édité par Albin Michel.
Bonjour Henri.
Eh bien, nous sommes ravis de vous retrouver parce que, à défaut d'avoir votre ronde serviette dans notre émission, vous fûtes déjà l'invité de notre radio avec le festin du lézard.
Absolument. Ça va devenir une habitude, un rendez-vous incontournable.
Bien, il faut avouer que quand on aime bien les premiers romans. Puis je pense que c'était un premier roman que vous aviez fait, non?
Oui, tout à fait.
Donc voilà, on est dans le deuxième avec la voisine du dessous, puisque en fait, l'appartement, en fait, c'est un roman étrange. En fait, vous avez opté pour une formule assez atypique. Parce que la formule épistolaire, vous pouvez nous en dire un peu plus?
Eh oui, c'était une façon un peu de nous mettre en danger, hein, que de m'attaquer au genre épistolaire, mais c'était volontaire parce que j'avais pas envie qu'il y ait un narrateur qui intervienne, notamment moi, pour raconter une histoire, mais je trouvais ça beaucoup plus vraisemblable et beaucoup plus près de toutes les émotions que de faire intervenir mes héroïnes par l'intermédiaire de courriers, de lettres, ce qui leur donne une certaine distance pour être davantage vrai et avoir une plus grande latitude pour s'exprimer, voilà, et surtout toucher davantage les lecteurs, être les plonger directement dans leur intimité. Voilà, je trouvais que cette construction-là me permettait d'arriver au cœur des émotions et dans leur intimité.
Alors ça, c'est sur le plan formel, parce que il faut avouer que je dirais que la formule épistolaire optée par Camus avec Cazares, sa correspondance, soit Mitterrand avec Anne Pinchot, vous trouvez des...
Il y a la Clos aussi, voilà, avec les liaisons dangereuses.
Voilà, vous aviez en fait des auteurs qui sont capables d'écrire des centaines de lettres, et en fait, c'est vrai que Hectorine, ce que je disais en première partie de l'émission, elle a plus de 100 ans.
Eh bien oui, Mais c'est pas grave, ça.
Non, c'est pas grave. Ouais.
Alors, évidemment, peut-être que le corps peut souffrir un petit peu au fur et à mesure que l'on vieillit, mais je pense que certaines personnes, et pour les avoir rencontrées, même si elles étaient d'un âge extrêmement avancé, ont su garder cette espèce de jeunesse. Voilà, c'est magique, je ne me l'explique pas. Vous savez, il y a des gens à 30 ans qui sont terriblement vieux et puis d'autres beaucoup plus âgés qui restent éternellement jeunes.
Alors, on se demande en fait si le corps, ce n'est pas justement l'apparence corporelle, c'est le corps, et puis que l'écriture, c'est l'âme, parce que cette âme ne peut pas vieillir. Et c'est ça qui est magnifique chez cette femme. Et alors, elle a opté pour un style. Et elle a vu défiler des tas de voisins, parce que je crois qu'elle y est depuis un nombre incalculable d'années dans cet immeuble du Marais.
Un peu plus d'une cinquantaine d'années. Ouais, c'était aussi compliqué, mais c'était un véritable défi que d'essayer de raconter un siècle de vie en quelques lettres. Donc il a fallu qu'elle soit extrêmement précise, concise, et qu'elle aille à l'essentiel, ce qu'elle fait, je pense.
Alors c'est vrai que lorsqu'on est dans un immeuble et qu'on voit défiler les nouveaux arrivants, il y a plusieurs attitudes, soit c'est se calfeutrer et ne rien dire, et dans votre livre, Hectorine réserve le meilleur des accueils aux nouveaux arrivants, hein.
Ah oui, c'est sa petite manie. Ouais. Mais on va pas tout dire. Hein,
parce non, que, non, 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 bien évidemment. Il ne faut pas spoiler l'histoire. Mais...
Voilà, exactement.
Alors, c'est vrai que lorsque la jeune femme débarque dans l'immeuble, elle se retrouve confrontée à une rafale de lettres. Elle a du mal à comprendre que ça puisse lui parvenir sous sa porte, quoi.
Elle a du mal à comprendre parce qu'aujourd'hui, ça se fait plus. Je crois qu'à l'époque, quand on arrivait quelque part, les voisins venaient vous voir ou vous alliez vous présenter à vos voisins. Il y avait toujours un échange de politesse suivi d'un petit cadeau. En général, c'était quelque chose de sucré, une douceur pour que voilà, la vie soit douce dans cette nouvelle habitation. Je crois que ce sont des rituels qui se sont perdus avec le temps. Et puis, effectivement, aujourd'hui, à l'heure des mails, des textos et de toute cette technologie, on n'écrit plus. Plus personne ne prend de lettres, de courrier, enfin, de papier à lettres pour faire du courrier, pour envoyer du courrier à qui que ce soit. On ne communique plus du tout de cette manière. Aujourd'hui, on envoie un texto, on appelle, on envoie un mail, mais on n'écrit pas une lettre papier que l'on va poster. Ça n'existe plus. Donc, effectivement, quand Sarah reçoit cette première lettre, bah, elle est tout à fait interpellée et elle se demande ce qui se passe et pourquoi on l'accueille de cette façon, oui, tout à fait.
Ah oui, c'est un genre risqué. De toute manière, il faut savoir en fait que Sarah est dans le monde éditorial, elle est confrontée quand même à l'écriture et à la lecture. Et en fait, dans sa vie privée, elle a décroché complètement de ses standards.
Alors, elle vit avec son temps en même temps.
C'est vrai. Alors,
Encore une fois, on est à l'heure des textos, des mails, de tous les réseaux sociaux. Oui, elle travaille dans l'édition, elle est graphiste, illustratrice. Elle va pas. Elle vit comme les jeunes gens de son âge.
Alors donc,
elle n'écrit pas de lettres, mais des mails, des textos, et elle passe des coups de fil.
Alors, tout à fait. En fait, le roman a la vertu cardinale de réhabiliter les fossiles, les dinosaures, les périmés que nous sommes. Enfin, je pense à moi parce que je suis sexagénaire. Et on passe toujours pour des vieux qui racontent leurs souvenirs, alors que les jeunes sont en train de rêver leur avenir.
C'est dit avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, même s'il y a une pointe un petit peu sarcastique, c'est parce que Hectorine a beaucoup, beaucoup d'humour et elle n'est pas dupe non plus. Et c'est vrai que c'est une question que je me suis posée. Alors, quel type de rapport on a aujourd'hui avec nos ancêtres, entre guillemets? Que ce soit nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, pour ceux qui ont encore la chance de les avoir, de quelle manière on se comporte avec eux, quel type d'importance on leur donne, quelle place ils ont aujourd'hui au sein de la famille, est-ce qu'ils sont pris au sérieux, est-ce qu'ils sont écoutés, est-ce qu'on leur laisse la possibilité de nous léguer une expérience, un savoir, cette richesse Je suis pas complètement sûre. Voilà.
C'est vrai que c'est une étude assez sociologique aussi intéressante, parce que l'immeuble dans lequel vit Hectorine et Sarah, c'est ce genre d'immeuble qu'on rencontre dans Paris, où les voisins de palier, des fois, on arrive tout juste à les croiser, parce que les horaires de travail ne sont pas les mêmes. Et les gens ont tendance, effectivement, à l'heure actuelle, où il y a beaucoup de communication, à ne plus du tout communiquer, oui.
Bah, surtout dans les grandes villes, en province c'est un peu différent, mais dans les grandes villes on est tellement nombreux qu'effectivement il y a une espèce de d'indifférence. On peut vivre plusieurs années dans un même immeuble sans jamais avoir croisé ses voisins, ce que je trouve incroyable et dommage probablement. Voilà, parce qu'il y a forcément des gens avec qui on pourrait échanger, avec qui ça pourrait bien se passer. Peut-être qu'on passe à côté de quelque chose de chouette.
Et alors, j'avais, dans la première partie, évoqué le caractère transgénérationnel, parce que, en fait, pour moi, c'est la compaction en fait, entre transmission et génération. En fait, c'est la synthèse des deux, c'est une transmission de génération en génération dans ce livre. Transmettre l'histoire.
Ben oui. Ce livre aussi, c'est une façon d'apporter un peu ma pierre à l'édifice. Je n'ai pas voulu faire ni un livre historique parce que je ne suis absolument pas historienne, même s'il a fallu que je me documente beaucoup pour qu'il y ait de vraisemblance dans ce que j'écrivais. Ça n'est pas non plus un témoignage, mais effectivement, je parle de cet épisode un peu sombre de la Seconde Guerre mondiale pour pas qu'on oublie ces choses-là. Voilà, aujourd'hui, malheureusement, les gens qui en sont revenus, sont de moins en moins nombreux, et je me demande aujourd'hui de quelle façon on peut essayer de faire perdurer cette mémoire-là pour que les prochaines générations ne commettent pas cette terrible erreur. On est dans une période un peu sombre encore aujourd'hui, avec cette montée de l'antisémitisme, avec cette montée de l'homophobie, avec tous ces gens qui continuent de se taper sur la tête pour des oui, pour des non, pour des désaccords stupides. Que tout ça manque malheureusement de bienveillance. Donc voilà, c'était ma façon de participer en écrivant ce livre. J'avais aussi envie de dire, l'homme est capable de choses exceptionnelles, ça on le sait, mais il est aussi capable de choses terribles, et je pense qu'il ne faut pas oublier qu'on est capable de faire des choses monstrueuses pour éviter de les refaire à l'avenir. Voilà, c'est très... C'est simple ce que je dis, mais c'est ma façon à moi de participer.
Oui, mais alors Hectorine a justement cette vertu, c'est de ne pas dire c'était mieux avant, elle disait c'était déjà comme ça avant. Parce qu'en fait, l'histoire se répète.
C'est cyclique, hein. J'ai l'impression que ça revient, quoi. Qu'on le veuille ou non, on ne se sert pas de nos expériences pour essayer de vivre et de se comporter différemment. Et c'est ce qui fait un peu peur, hein, finalement.
Alors dans la quatrième de couvre, j'ai repéré le résumé qui est fait par votre éditeur, et il évoque en fait le cabour de la recherche. Alors le cabour de la recherche, autant que je sache, c'était Proust en fait. Hein.
Évidemment, oui. Je parle de Proust parce que la maman d'Hectorine était une adoratrice de Marcel Proust. Et il fallait absolument qu'elle passe au moins une semaine durant les vacances d'été à Cabourg pour marcher dans les pas de son maître. Voilà.
Oui, alors il faut savoir pour les auditeurs qu'en fait, ceux qui vont en librairie savent que Proust a écrit à la recherche du temps perdu, mais la recherche en tant que telle, c'est ni plus ni moins que le titre du livre qui est évoqué de façon beaucoup plus succincte en fait. Hein. Parce que ce qui m'avait surpris, c'est que je dis la recherche, je cherchais le rapport avec la recherche du temps perdu.
Il y a je ne sais pas combien de tomes, c'est énorme, ouais. Le travail qu'a fait Proust.
C'est ça, il faut savoir qu'en fait, ce qui est bien, quand on lit un livre comme le vôtre, on repart sur d'autres auteurs, et du coup, vous m'avez renvoyé à Proust et à ces fameuses madeleines, d'ailleurs les madeleines qui vont, disons...
Qui n'étaient pas des madeleines, Proust, c'était pas des madeleines en vérité. Hein. C'était pas du thé, c'était une tisane. Mais... Oui, voilà, évidemment, il en parle. Et les petites madeleines, bon, c'est des petites métaphores que l'on retrouve effectivement dans le roman et qui sont confectionnées par Hectorine.
Alors, dans l'architecture du livre, moi, je ne suis pas l'arbitre des élégances littéraires. Je ne me permettrai pas de dire il est bien, il n'est pas bien. Moi, il ne m'a plus. Alors, le livre, pour moi, il instruit, il émeut, et il me touche et il m'apprend. Et ça me suffit, je suis heureux avec ce livre. J'espère que les lecteurs le sauront. Et alors, ce qui est dans le genre épistolaire, il faut savoir que les formats des lettres, en fait, il y a une asymétrie entre les lettres. au départ, où les lettres d'Hectorine sont très longues, et les réponses de Sarah, on peut dire que c'est très court.
Oui, l'idée, c'était aussi je voulais pas d'un roman rébarbatif, je voulais que le lecteur s'amuse, je voulais promener le lecteur, je voulais qu'il y ait un petit peu de suspense, et puis, avec la vie qu'on vit aussi aujourd'hui, qu'il ait le temps de lire une lettre comme on lit un chapitre. Donc, c'est des lettres qui sont lues comme des tout petits chapitres, et on peut s'arrêter quand on veut, à la fin d'une lettre, et puis reprendre quand on a le temps.
Oui, ça donne une dynamique au livre, tout à fait.
Et les retours que j'en ai eus, c'est que les gens ne le lâchent pas.
C'est pareil. Hein. J'en disais, elle a fait ça pour qu'on ne s'essouffle pas, pour quand on monte les marches d'escalier. Puis finalement, on change de palier de l'un à l'autre et on arrive à vouloir grimper pour savoir de quoi il ressort.
Jolie métaphore, Henri. Bravo. Merci beaucoup.
Vous voyez, déjà, vous faites quelque chose aujourd'hui de bien. C'est pas ma journée, mais bon, avec vous, je sens que je vais être inspiré. Et alors, justement, le livre, en fait, on s'aperçoit qu'après, l'échange devient de moins en moins monologue, on va dire, que Sarah commence à mordre à l'hameçon, et puis les lettres de Sarah commencent à se dilater, elles sont beaucoup plus longues, c'est plus élaboré, et on sent que s'installe une grande complicité entre les deux femmes.
Oui, c'est vrai. Elle se laisse aller. Mais en même temps, il faut se mettre à sa place. Est-ce que vous vous êtes posé la question, parce que vous l'avez effleuré tout à l'heure en début d'émission. Imaginez, vous venez d'arriver dans un appartement et vous êtes accueilli par une première lettre. Bon, c'est absolument pas votre mode de communication. Du coup, vous répondez pas. Vous en recevez une deuxième, une troisième, une quatrième. Au bout d'un moment, vous trouvez ça un petit peu agaçant, intrusif. Et puis finalement, cette vieille femme continue de vous écrire, vous raconte certaines choses. Elle vous explique que son insistance a ses motivations. Donc, ça veut dire qu'elle a quelque chose à vous dire. Vous faites quoi ?
Alors c'est vrai qu'on peut assimiler ça du harcèlement. C'est vrai que les gens se sentent pas harcelés, mais disons, il y a une intrusion qui se fait quelque part.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais alors, vous réagiriez de quelle manière, Henri ?
C'est-à-dire que, moi, vu la génération que j'ai perdu l'habitude d'écrire des lettres. Il faut avouer que lorsque je recevrai autant de lettres, je me renseignerai déjà sur l'âge de la personne qui m'écrit. Je me dirais, à 100 ans, je ne pense pas qu'elle puisse être tombée amoureuse de moi. Et je me dirais que, déjà, je serais tranquille. Mais il faut avouer que je vis dans un immeuble collectif et j'ai l'occasion de m'être adressé à des jeunes. Et ceci, je leur dis, si vous avez besoin de quoi que ce soit, la première chose, ils sont stupéfaits parce qu'ils se demandent mais qu'est-ce que ce type me veut alors qu'en fait on ne veut rien.
On est plus habitué à ça. Exact, c'est vrai. Dès qu'on essaie d'être sympathique ou bienveillant avec quelqu'un, tout de suite l'autre personne devient suspicieuse parce que c'est pas naturel, c'est pas normal. Je vous dis, ce monde manque terriblement aujourd'hui de bienveillance. Et la bienveillance est quelque chose de tout à fait naturel. Il n'y a rien de plus naturel que de prendre soin des gens avec qui l'on vit. Ou avec qui on cohabite, quand on vit à plusieurs dans un même immeuble ou un petit immeuble de quartier. Et là, notamment, ça se passe dans le Marais, dans le Haut-Marais, et c'est un peu considéré comme un village. Les voisins se connaissent, et bien sûr, chacun fait attention à l'autre, surtout passé un certain âge. Mais malheureusement, je crois que ce sont effectivement des choses qui se perdent, et je trouve ça triste.
Alors ça, c'est Hectorine, en fait, interroge, en fait, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'il y a un secret et ça, c'est suspense. Parce qu'en fait, le livre, il est organisé d'une manière, je dirais pas qu'il est choral, en fait, parce que pour qu'il y ait cœur, il faut qu'il y ait pluralité de personnages. Mais je dirais que, quelque part, les personnages, ils sont derrière, en filigrane de la correspondance, ils sont évoqués dans la correspondance, mais ils ne participent pas à la correspondance.
Non, c'est vraiment une correspondance entre Hectorine et Sarah, uniquement, oui.
Alors ça, c'est quand même fortiche, parce que vous êtes arrivé quand même à nous tenir en haleine sur ce livre, qui, je dirais aussi, donne une certaine richesse à cette forme de correspondance. Alors, il faut savoir qu'elle ne pose pas les lettres, elle les glisse sous la porte, ce qui fait que l'avantage qu'il y a, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par le facteur.
Alors là, imaginez en plus s'il fallait qu'elle aille à la poste acheter des timbres. Attendre, non, c'est pas possible. C'est tellement plus pratique de monter un étage de descendre et de déposer sa lettre sur le paillasson de sa voisine, on va pas passer par la poste.
Alors, l'une...
C'est pas écolo.
Voilà, il y en a une qui tape, je crois, sur son ordinateur, et puis l'autre, elle tape pas sur une machine à écrire, non, il me semble.
Oui, c'est ça.
Alors, c'est une barlette, alors il faut savoir que la barlette, c'est pour ceux qui arriveraient parce qu'à la radio, pour faire visualiser une machine à écrire, c'est un peu comme les vieilles Remington, là, les machines, lorsque vous appuyez sur trois touches à la fois, vous passez une heure pour arriver à démêler la phrase dans laquelle vous êtes rentré.
Imaginez le temps qu'elle passe à écrire. Alors évidemment, elle a l'habitude, c'est sa vieille machine, et elle a toujours écrit Hectorine, donc elle sait s'en servir, elle la connaît par cœur, etc. Et je pense qu'elle ne commettrait pas ce type d'erreur, mais je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus fastidieux d'écrire à la machine que sur un ordinateur, oui, pour plein de raisons.
Alors c'est vrai qu'aussi, sur la relation qu'il y a entre les deux femmes, aussi curieux que ça puisse paraître, moi j'ai trouvé qu'il y avait un effet miroir. Je me suis dit que quelque part, l'une était le reflet de l'autre. À un moment donné, je les ai trouvées très communes en avoir des points communs, enfin des points de convergence très forts, au-delà du secret qui peut les lier, hein, dont on ne parlera pas. Mais il faut acheter le livre, hein, comme ça vous le saurez.
Écoutez, très, très honnêtement, après chacun, il voit ce qu'il a envie d'y voir. Et ça, c'est quelque chose à laquelle je tiens énormément. Quand j'écris, je raconte certes une histoire, mais il est hors de question que j'impose un point de vue. Ce qui est formidable, c'est de pouvoir offrir au lecteur cette séance de cinéma. Donc c'est lui qui va se projeter les images, qui va se faire son cinéma tout simplement, et il libérera ce qu'il a envie d'y voir. Je laisse suffisamment de largeur, d'espace dans ses histoires pour qu'il puisse lui interpréter comme il l'entend, sans être obligé de penser comme moi j'ai décidé de le penser. Donc vous avez envie de voir une espèce de ressemblance aiguë entre Sarah et Hectorine, c'est votre point de vue et je respecte tout à fait.
Alors il y a aussi dans le livre, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vous évoquez un peu se faire un film en fait. On peut dérouler l'histoire que développe Hectorine comme un film, parce que lorsqu'elle part se mélanger dans la foule de la gare de Lyon, on a l'impression d'y être. C'était étrange, ça c'est formidable.
Quand vous prendrez train, la prochaine fois, vous penserez à elle. Il paraît qu'elle rôde. Il y a une libraire formidable qui s'appelle Isabelle et qui travaille à la librairie du relais de la gare de Lyon, Hall 1, qui a lu l'appartement du dessous, qui a beaucoup aimé et qui le conseille à beaucoup de voyageurs en transit dans cette gare. Et qui guette de temps en temps l'apparition d'Hectorine, parce qu'elle y va souvent. Donc elle la guette et elle me dit, si je la vois, je la prends en photo et je vous l'envoie. Et je trouve ça formidable. Donc je vais faire des petits coucous de temps en temps à Isabelle, et puis voilà, on parle un petit peu d'Hectorine, on reparle un peu du roman, et tout ça est assez marrant. Mais les gares, c'est un endroit tellement, tellement particulier.
Mais
hors du temps,
c'est sympa. Une démarche, c'est comme on dit en anglais, feel good, c'est-à-dire une démarche où on pourrait dire que dans ce livre il y a une forme de tendresse, de tendresse très forte. Soyez doux avec vous, soyez doux avec les autres et vivez pleinement, parce qu'en fait Hectorine, par le passé douloureux qu'elle a vécu, elle est capable de donner justement à des jeunes gens comme Sarah le chemin qui reste à parcourir pour mieux vivre.
À 103 ans, avec ce qu'elle a vécu, elle est quand même riche d'une certaine expérience. Et je pense qu'effectivement, de sa hauteur, elle peut se permettre de donner des conseils tout à fait bienfaisants et bienveillants aux gens qui l'entourent. Et elle a absolument raison. Oui, il faut être doux avec soi. Enfin, on ne peut pas être doux avec quelqu'un si on n'est pas avec soi. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Cette phrase, elle est simple. Si on veut que le monde change, il faut d'abord se changer. Si on a envie que les gens vous aiment, il faut déjà bien s'aimer soi-même pour être capable de les aimer. Enfin, tout passe par soi au départ, quoi. Et ça, elle l'a compris. Parce qu'elle a traversé des moments de sa vie incroyables. Il était presque improbable, d'ailleurs, qu'elle s'en sorte. Et elle s'en est très bien sortie.
Alors, vous pourriez être à l'Académie française. Pardon, je vous ai interrompu.
Elle peut justement, grâce à tout ça... C'est pour ça que je disais que c'était important d'écouter les personnes âgées et d'écouter ce qu'ils ont à nous transmettre, parce qu'ils sont déjà passés par
Et justement, on est rentré dans une logique. J'avais fait un néologisme que j'ai beaucoup aimé, c'est la répondance. En fait, vous pourriez rentrer à l'Académie française, c'est ce que je voulais vous dire, parce que répondance, la contraction de correspondance et de répondre. Et en fait, j'ai trouvé ça magnifique.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mais c'était pas un titre possible, voilà. Mais parce que. Mais bon, voilà. Et on a trouvé un autre titre avec mon éditeur. Mais je tenais quand même. Bon, de toute façon, on pouvait pas l'enlever. Ça fait partie de l'histoire. Et c'est vraiment le sésame de leur correspondance à Sarah et Hectorine.
Eh bien, on va bientôt se séparer parce que, en fait, entre nous deux, il y a des kilomètres, mais surtout entre Hectorine et Sarah, il n'y avait qu'un étage. Nous avons gravi les escaliers avec plaisir et j'espère que ce roman va vous relier à Florence qui nous a fait un bonheur d'écrire ce livre.
Et merci beaucoup, Henri.
Eh bien, nous allons nous séparer avec, je trouve que ce serait très bien, avec Charlotte Gainsbourg, qui va nous interpréter un très beau morceau que vous adorez certainement.
Absolument.
Voilà, donc après cette pause musicale, nous prendrons congé. Et je vous souhaite à toutes et à tous. Et
on va donner le titre, pas en anglais, mais en français.
Oui, allez-y.
Alors, le titre, c'est, je crois,
Alors
en anglais, en français, c'est Une journée remarquable. Voilà ceci est une journée remarquable.
Ouais, such a remarkable day, c'est ça, c'est tout à fait. Et c'est un jour remarquable. On va le souligner.
Remarquable journée.
D'ailleurs, vous allez en passer des belles, puisque je pense que vous passerez encore sur les antennes à la télévision, je crois que c'est à Grenoble. Vous passerez.
Oui, tout à fait, oui. Fin mai, oui, il y a des petites radios à venir encore, pas mal de vos confrères, et puis voilà, et puis des signatures, des salons, oui, il y a des petites choses à venir sympathiques pour que je puisse rencontrer mes lecteurs. Ça, c'est sincèrement la cerise sur le gâteau de pouvoir rencontrer les lecteurs, c'est merveilleux.
Comme on est début de votre succès, nous sommes flattés que vous nous ayez choisi pour évoquer ce roman, voilà.
C'est moi qui vous remercie, Henri, de votre accueil, de votre gentillesse. Et puis, j'espère peut-être au troisième, alors.
Oui, pourquoi pas. Why not, comme on dit en anglais. Au revoir.
Merci, Henri, à bientôt.
Avec Charlotte Gainsbourg. À bientôt. Such a remarkable day. Radio Arverne avec Tranche de Livre et le très beau livre de Florence Herrmann, L'appartement du dessous chez Albin Michel, et ce très beau morceau de Charlotte Gainsbourg, Un jour remarquable, pour un roman non moins remarquable. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi 12h30. Merci, au revoir.
La librairie Les Volcans à Clermont-Ferrand vous a présenté Tranche de Livre, votre émission littéraire.
Retrouvez toute l'actualité de votre librairie sur le site www.librairielesvolcans.com.